aimant le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle Cheminons dans la transition en partenariat avec l'IJET, l'Île Jourdain en transition. Et pour cette émission, je suis accompagnée de Isabelle et Pauline. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Anna, bonjour Pauline.
Salut Isa.
Et c'est une émission estivale, donc on va partir sur un voyage dans le sens de écologie, de tourisme vert, comme vous l'avez annoncé avant qu'on en parle dans le off. Mais je vous laisse, du coup, vous avez tout préparé. Allez, c'est parti. De quoi on parle justement aujourd'hui ?
C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le tourisme vert ? Tout est un peu vert en ce moment. Alors, il y a d'autres mots pour désigner ce concept, comme l'écotourisme, le tourisme durable, éthique, responsable. En fait, l'idée qui se cache derrière ce concept, c'est tout simplement éviter que le paradis des uns devienne l'enfer des autres, que ce soit humain ou la biodiversité, la faune et la flore locale. L'idée donc c'est de minimiser les impacts et même d'aller plutôt régénérer, renforcer, restructurer, rééquilibrer tout en prenant du bon temps et des vacances, du voyage agréable. Ça veut dire donc favoriser la culture locale, la conservation, même le soutien des droits de l'humain, de la biodiversité. C'est un tourisme à retombées positives, un tourisme respectueux. Ce choix en fait bénéficie du coup aux touristes et à l'hôte, c'est un concept gagnant-gagnant et c'est durable parce que l'idée c'est que les ressources d'aujourd'hui soient toujours disponibles pour les populations de demain, tout simplement, les générations futures. Ce concept a été inventé entre guillemets en 1965, donc c'est pas tout nouveau et ça prend un véritable essor en France depuis les années 90. C'est un tourisme qui propose des activités écologiques, souvent en pleine nature, mais aussi qui va favoriser la conservation du patrimoine français. Et on sait que 80% de ce patrimoine en France est situé à la campagne, où on va retrouver les valeurs d'authenticité, de charme, et bien sûr ces grands besoins de déconnexion qu'on ressent en fait, dont on a besoin en vacances. Juste un exemple financier. Pour le Cantal, ça représente ce tourisme durable un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros par an quand même. Okay. Voilà. Et donc ce chiffre va nous permettre de rebondir sur l'impact en fait du tourisme de masse.
Oui, donc voilà, le tourisme en France, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un secteur d'activité très, très porteur économiquement. Il faut savoir qu'on a 89 millions de touristes internationaux en 2023, ça a été noté. Moi, je trouve ça impressionnant. Ça veut dire combien de vols d'avions pour venir sur le sol français. Bon, tant mieux. Tant mieux. La ville Paris est la plus visitée du monde. On a 7% du PIB qui est en lien avec le tourisme. On a 2 millions d'emplois qui sont autour du tourisme. Bon, faut voir quels emplois. Hein. Ça peut être saisonnier assez précairement. Bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est un gros enjeu économique et ça forcément un impact environnemental important. Donc on sait que le transport routier, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, dont le tourisme. On a 80% des déplacements qui sont pour les voyages, les vacances, qui sont faits en voiture. Un vol Paris-Nice qui devrait être interdit, non, émet plus de 150 kg de CO2 par passager. Donc je ne sais pas combien il y a de passagers dans un avion, mais voilà. Donc quand on a des transferts comme ça assez réguliers, c'est très impactant. Les déchets aussi sont un enjeu. Les touristes produisent entre 1 et 2 kilos de déchets par jour, mais ça dépend de son mode de voyage. Et il y a des zones touristiques qui ont plus de 30% de déchets en plus sur leur territoire en été. Donc ça aussi, c'est assez impactant. Il y a l'eau L'eau qui est une ressource très très peu disponible en été, et en haute saison, les zones touristiques, c'est une consommation doublée, voire triplée. Donc dans les Pyrénées orientales où on manque d'eau tout le temps, même toute l'année, là il y a l'invasion des touristes, ça ajoute à de la contrainte en eau.
C'est vrai que les chiffres sont frappants en fait, et chaque fois quand tu les mentions comme ça, c'est peut-être ça ouvre un peu les yeux en fait, quand on dit 150, met justement les chiffres, ça fait quelque chose, parce qu'on ne se rend pas compte en fait quand on le fait quotidiennement.
Quand tu vas à la piscine du camping, tu ne te dis pas que ça te coûte à la haut territoire une consommation d'eau énorme, mais il y a aussi les hôtels qui se multiplient, qui artificialisent les sols, donc on n'a plus de littoral, plus. En tout cas, dans la zone sud-est, c'est un peu impacté, même beaucoup, mais on a des terres artificialisées où plus de 20 000 hectares, j'ai noté dans les chiffres. On a les stations de ski qui ont été impactantes et qui ont détruit 10 à 30% des habitats naturels des espèces locales, quoi. Et enfin, les hôtels, c'est par rapport à l'eau qui consomme entre 150 et 300 litres par jour et par personne dans un hôtel 3 étoiles. Donc, faut compter le nombre d'hôtels qu'on a sur la côte d'Azur. Donc, c'est des chiffres impressionnants qui font prendre conscience. On a aussi un autre volet qui est le côté... l'illusion d'un tourisme démocratique, l'illusion de croire que tout le monde peut partir en vacances et qu'en fait, il y a 80% de la population française qui n'a jamais pris l'avion. Et alors, du coup, l'impact du CO2, ce n'est pas forcément les mêmes qui... un peu toujours les mêmes d'ailleurs qui ont plus d'impact sur le CO2. Ceux qui ont les moyens de voyager, qui ont... c'est aussi ça, profondément inégalitaire et... Et du coup, l'alternative, je trouve, permet d'avoir un accès au voyage et aux vacances, sobre, peu cher, et du coup, même plus performant pour le repos et pour ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche d'ailleurs, Isabelle, dans le voyage et dans les vacances ?
Oui, alors pourquoi est-ce qu'on rêve tous tellement de vacances, de voyages ? Qu'est-ce qui nous pousse à dépenser beaucoup d'argent ou à consacrer le peu de jours de congé qu'on a à partir à l'autre bout du monde, courir dans tous les sens,
le consommer. Confort, la consommation, le rien faire.
C'est ça,
en fait. C'est un peu, en fait, trouver juste le moment de repos parce qu'on a tellement travaillé toute l'année et puis là, c'est je vais consommer tout ce que j'ai travaillé pour me reposer. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais on en parle peut-être. Tu auras des réponses.
C'est exactement ça. On a avant tout besoin de repos. On a envie de calme, on a besoin d'évasion, on a besoin de déconnecter, de changement de décor, d'émerveillement, on a envie de changer de rythme, de ralentir, de se dépayser, mais aussi on a envie de faire du sport parce qu'on a envie de bouger, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, on a envie de se retrouver dans la nature ou au contraire de visiter des lieux culturels. On a envie de liberté, de se détendre, de se retrouver en famille, entre amis, de besoin de reconnexion, de lien social. Pourquoi pas de nourrir notre imagination et notre créativité aussi. En fait, on a besoin de se retrouver soi-même, de retrouver les autres. Et quand j'entends soi-même, c'est aussi de se retrouver en tant qu'humain dans la nature, donc de pouvoir se reconnecter à notre nature humaine. Tous ces besoins sont légitimes, évidemment. C'est pour ça qu'on peut céder aux sirènes du marketing qui va en plus créer des faux désirs. On va croire qu'on a besoin ou qu'on a envie de ça, alors que c'est pas vraiment ça. Et ça peut laisser un goût amer à la fin des vacances en se disant finalement, je me suis pas reposée, je me suis pas détendue tant que ça. Bon oui, j'ai vu ça et ça, mais je me sens pas si bien que ça à la fin des vacances. Donc on avait surinvesti et fait un mauvais choix de stratégie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est déjà la tête dans le guidon toute l'année, on n'a pas le temps, pas l'envie de prendre une charge mentale supplémentaire pour aller réfléchir à ce dont on a vraiment besoin, fabriquer nos vacances, organiser nos vacances nous-mêmes, en dehors de ce qui est directement accessible. Et du coup, on va, par manque d'informations, parce qu'on ne se rend pas compte non plus de l'impact forcément dont tu as parlé tout à l'heure, Pauline, par économie de ressources mentales, on va, et aussi par besoin de sécurité, on va faire confiance à des agences de voyage qui vont proposer en plus une super offre spéciale. On va avoir l'impression de faire des économies. Où on va regarder sur des sites bien connus qui vont jouer sur le marketing pour nous vendre des choses qui ne vont pas finalement nous satisfaire et ne seront pas respectueux de l'environnement et des humains. Donc, pour des raisons de sécurité et de gestion de budget, on va céder aux sirènes du tourisme conventionnel. Et donc, on peut faire autrement, c'est-à-dire toutes ces envies de dépaysement, de recherche de soi, etc. Y a quelqu'un qui nous en parle très bien dans une chanson, c'est Francis Cabrel, dans sa chanson « Les murs de poussière », où on a vraiment ce voyage un peu d'Ulysse qui part conquérir quelque chose et qui finalement revient s'émerveiller sur ce qui était à portée de sa main.
Allez, on écoute.
Étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre. Il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé.
On écoute Francis Cabrel, Les murs de poussière, et vous êtes toujours dans le cheminon, dans la transition, l'émission en partenariat avec l'Irlandais en transition pour ces mois de juillet 2025, où on parle de écotourisme, de voyage, tourisme vert, de ces vacances, un peu comment justement organiser les vacances moins consommatrices, on va dire comme ça. Isabelle et Pauline, toujours Isabelle. Vous reprenez la parole.
Comment faire pour faire un pas vers des... tranquillement, hein, parce qu'on ne va pas se prendre la tête pour les vacances non plus, c'est pas l'idée. Donc, pour faire un pas vers des vacances plus vertes, plus écologiques, plus satisfaisantes aussi pour nous, parce que, on va se dire qu'en plus, on a fait une bonne action, ça va être vraiment un élément supplémentaire à ces vacances-là. Donc, est-ce qu'il suffit de choisir un voyage qui se prétend écologique pour que ce soit juste ? Bon, on sait hein, que le greenwashing sévit partout. Et beaucoup de labels maisons hein, se sont autoproclamés vert écologique responsable. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation là-dessus. La Commission européenne est en train d'y travailler pour définir des critères qui pourraient être une base. Alors après, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un label. Mais c'est déjà le mérite d'exister. Il y en a quelques-uns quand même qui sont largement reconnus, comme Green Key International, où là, il y a des critères vraiment très définis, très transparents et des audits réguliers. Il y a Biosphère Responsable Tourisme, qui reprend tous les ODD, hein, donc là, vraiment, les objectifs de développement durable au niveau international. Donc là, c'est pareil, c'est quand même des critères qui sont reconnus. Mmh. Et en France, le label Bas Carbone, tout simplement, qui aussi, cette gamme-là, cette qualité-là, existe déjà. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser son bon sens. Voilà, une fois qu'on sait que les trois leviers sur lesquels le plus évident, le plus facile de jouer pour faire un pas vers l'écologie et la responsabilité sociétale, c'est ben, le nombre de kilomètres parcourus associés au mode de transport. Ouais. C'est le coût de ces deux ingrédients, ça représente 70% du coût carbone des vacances d'après Carbon 4. Donc vraiment là on a un levier qui est important. Ça veut dire qu'on peut faire des kilomètres, mais si on les fait en train, ben, on va avoir un impact beaucoup plus bas, ou en bateau, ou en vélo.
Exactement, ou à pied, mais bon, c'est plus compliqué.
Ou à pied, on a tous en tête peut-être des exemples de familles ou d'amis, de couples qui sont partis faire des voyages, des périples, à vélo, même en stop. donc c'est possible. Et là, on va être satisfait, on va avoir de l'aventure, on va avoir des rencontres, on va... Voilà. Donc, bon. Et il y a aussi le type d'hébergement et d'activité, parce que parfois, bon, c'est compliqué de changer tout d'un coup. Donc, on peut se dire simplement, je vais aller choisir un écologe vraiment responsable, pas le type d'écologe qui se retrouve dans un lotissement, comme j'ai vu une fois, c'était un écologe soi-disant dans un lotissement, et en arrivant, il y avait une pile de déchets laissés sur le trottoir qui empêchait les gens de passer. Il y avait dedans 5 jacuzzis, une grande piscine, 4 pauvres panneaux solaires et des cabanes en bois, comme tout logement, le tout survendu. C'était vraiment honteux. Donc, du bon sens, vraiment choisir son type d'hébergement et ses activités sur place. Dans le sens, on peut aller vers le marché, la marche, hein, toutes les mobilités douces, le cyclisme, mais aussi, pourquoi pas, s'accorder 2 jours de farniente, de rêverie, de flânerie, de jeu, aller boire un café en terrasse. Enfin, c'est très, très simple et peu coûteux. Et ça va répondre quand même à nos besoins de calme, de repos, de déconnexion,
absolument,
etc. Pour voyager ou prendre des vacances vertes et confortables et détendantes et agréables et fun, il y a plein de destinations. C'est plutôt un état d'esprit finalement, et un petit peu d'information, un petit peu de bon sens, et le tour est joué. Si on n'a pas envie de se préoccuper de tout ça, il existe des agences de voyage spécialisées à qui on peut confier ses vacances en toute confiance. Et on peut tout à fait aussi voyager à l'autre bout du monde si on veut absolument aller à l'autre bout du monde. Pourquoi pas ? Mais vraiment, on va aller peut-être choisir des destinations qui ont développé ce tourisme vert. On peut penser au Costa Rica, à l'Équateur, au Chili, okay, aux Amériques, la Tanzanie, qui est très très connue, où ils ont réussi à inverser l'exploitation de la nature par la population locale et par les touristes. Au contraire, maintenant, le tourisme protège à la fois la biodiversité et donc crée des emplois localement, et toutes les ressources, ou une grande partie des ressources, de l'argent à mener, des finances à mener, sont réparties et utilisées dans une logique équitable, responsable. Il y a l'Irlande aussi, où on peut faire de superbes parcours à vélo, à pied, du camping, etc. Bref, il y a plein de destinations. Et la France, notre beau pays, avec son tourisme, est aussi vraiment une destination de choix. J'ai un exemple à donner, puis après je te laisserai la parole pour d'autres exemples, Pauline. C'est la réserve biologique des Monts d'Azur, sur la Côte d'Azur, et oui, qu'on connaît peu, donc c'est un peu dans l'arrière-pays. Et en fait, c'est une véritable réserve biologique qui accueille les grands mammifères européens. Donc on peut y voir, par exemple, les bisons d'Europe. Et oui, il y avait des bisons en Europe, qui voilà, sont des bisons forestiers. Et les chevaux sauvages, les chevaux de Przewalski, ces fameux chevaux préhistoriques, qui sont en liberté sur plusieurs centaines d'hectares, protégés des braconniers, parce qu'on en a aussi en France. Avec tous les animaux qu'on peut croiser dans nos forêts, des sangliers, etc. C'est vraiment un endroit très particulier. On peut faire du safari à pied et en calèche pour aller à la rencontre de ces animaux. On est accompagné par des guides biologistes et naturalistes, donc c'est à Thorenc, en allant l'arrière-pays. C'est vraiment super beau et c'est très peu connu. Mais vraiment, pour y être allé, c'est magnifique.
Revenir à la nature, en fait, un peu, et c'est mélangé avec les animaux, justement.
Exactement. Il y a aussi une très belle piscine naturelle. Tout le site a été rénové de façon écologique. Et c'est vraiment sur l'initiative d'un couple, d'un vétérinaire qui travaillait auparavant, justement, en Tanzanie, et qui a participé à installer ce système-là dans ce pays-là, qui est revenu et qui a créé ça.
C'est possible. Donc, Pauline, tu as aussi une proposition à nous faire.
Moi, j'avais envie de parler de festivals musicaux. Okay. En France, on en a partout, dans toutes les villes. Et donc, moi, j'ai plus sur la partie musique électronique. En fait, j'ai un petit rêve, c'était d'aller dans les gros festivals de psytrance. Tu vois, Universo, Parallelo au Brésil.
De tourisme.
Ou alors au Boom Festival au Portugal. Et enfin, à chaque fois, ça engrange un tel nombre de personnes. Et enfin, c'est impressionnant, le mouvement. Et surtout que ça se passe dans des zones très, très chaudes, très arides. Donc, il y a une consommation d'eau énorme. Et en fait, j'ai découvert qu'en France, on avait ce type de festival dans l'Allier, fin août, à Dra Trans Festival. Et en plus, ils ont une démarche... dans la transition. Bon, c'est que la culture, elle a du mal à survivre. Enfin, il y a des coupes budgétaires importantes, et donc les charges liées à l'énergie, enfin l'eau, etc., sont hyper impactantes pour ces structures. Et du coup, l'association ADRA a fait appel à un énergéticien pour réduire leur consommation d'électricité. Donc, ils ont fait une première année d'études sur le premier, 2023-2024, où c'était que du constat et de la diagnostic. Et du coup, il y a quand même 9500 personnes qui sont accueillies sur 4 jours. Et voilà, donc il fallait étudier. Enfin, c'est très... Enfin, moi, je suis thermicienne. Donc du coup, ça m'intéressait de savoir mais comment on peut réduire l'impact d'un festival.
Oui.
Alors que, voilà, c'est de la musique non-stop. Il y a de la scène. Il y a des zones bien-être, détente. Enfin, c'est un peu, tu vois, ce genre de festival où on a un espace conférence, atelier, artisan. Enfin, les artisans locaux. Il y a l'espace détente où on est musique douce et on fait du yoga ou du massage. Il y a des scènes, enfin trois scènes avec beaucoup de sons, beaucoup de lumière. Et tous les food trucks qui sont autour là pour alimenter 39 500 personnes sur 5 jours. Des parkings, des campings, enfin voilà. Donc c'est un impact assez fort. Et là, bah, du coup, ils ont trouvé un cahier des charges pour la suite. Et du coup, ça, je trouve que c'est une démarche intéressante et qu'il faut aller soutenir en y allant. Okay. C'est le dernier week-end d'août. Donc là, ils ont découvert qu'ils avaient 12 armes fatales. Donc c'est un cube qui a fait l'étude. Et je vous invite à aller voir leur site. Ils ont c'est de l'énergie. Enfin, c'est du conseil en énergie, mais sous un autre angle. Avec l'humain d'abord, en fait. C'est pas la machine, on fait marcher la machine, on fait marcher la climatisation, parce que on a besoin d'avoir 25 dans la pièce. Là, c'est juste... ils ont une méthode qui permet de d'abord étudier les endroits de non-consommation, enfin, où il n'y a pas d'usage, mais pourtant, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pour alimenter. Donc, en fait, c'est plus centré sur l'usage et la personne qui utilise les lieux. Et ils ont trouvé 12 armes fatales, donc organiser les flux de froid pour les bières. Parce qu'en fait, ils ont remarqué que par la mesure, etc., que les bars, ça consomme énormément d'électricité. Sûr. En fait, le besoin de Hadra Transfestival, là, c'était de réduire leur location de groupes électrogènes. Parce qu'il fallait qu'ils soient autonomes et ça coûte énormément cher en énergie et en argent et en location. Et donc, c'était un besoin financier à la base, mais qui est aussi vers une démarche de sobriété et transition énergétique.
Et du coup, ils ont réussi, en fait. Ils ont
ils ont fait une première année de diagnostic. Et ils ont mis le doigt sur les points à faire évoluer. Et je pense que cette année, ça va être les tests.
Vas aller voir, peut-être, tester.
Non, mais c'est le dernier week-end d'août, la veille de rentrée. Ils ont pas compris que les parents qui ont des enfants à l'école.
Si quelqu'un y va, on attend vos retours, justement, à la rentrée.
Dans l'Allier, en plein centre de la France. Et du covoiturage, d'ailleurs, sur leur site. Donc en fait, j'avais envie de donner les armes fatales pour réduire l'impact énergétique d'un festival. Donc organiser les flux de froid pour les fûts de bière, adapter les puissances. Donc c'est un peu technique, mais bon, adapter les puissances des génératrices. Donc ça veut dire, en fait, on est toujours en train de voir là, voir plus haut, plus grand, pour avoir de problèmes. En fait, on a toujours une marge d'erreur sur les systèmes. On prend toujours des systèmes plus puissants alors qu'un peu moins ça suffirait. Du coup, ça impacte la consommation d'électricité. Donc après, il y avait il y a plein de choses très techniques, donc je vais les passer, mais penser sérieusement au biogaz local. Donc ça veut dire qu'ils ont étudié, ils ont vu qu'il y avait une offre locale, donc pourquoi pas se faire appel à eux. Donc revoir la stratégie de l'éclairage des parkings, c'est éclairé tout le temps. Donc là, il y a une question de domotique, enfin en tout cas de capteurs qui permettent d'éclairer quand il y a besoin. En fait, c'est ça, utiliser l'énergie quand il y a besoin et pas quand il y a personne. Voilà. Donc, il y a un site, un cube qui a fait son. Bon, si vous êtes technicien, ingénieur, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce que fait un cube. C'est impressionnant. Ils essayent de prôner un changement de paradigme en termes d'énergie, ce qui est un peu compliqué en France quand on a les gros Total et compagnie qui font la loi sur le marché.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est du côté des festivals, justement.
Voilà. Et ils ont tous, normalement, un label éco-festival. On est, j'ai pas allé creuser le cahier des charges, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des festivals qui ont moins d'impact en termes de déchets. Souvent, c'est le déchet qui est plus facile à mettre en place au départ.
Oui.
Mais les consommations d'énergie, ça, c'est comme si ça se sent pas, ça se voit pas. Ils sont pas forcément trop volontaires là-dessus. Voilà. Ce que j'avais exemple. Et après, j'avais un autre exemple sur les voyages famille. Par exemple, moi, j'ai ma moitié qui est marocain. Et on y va régulièrement. On a 3 semaines de vacances l'été. J'arrête pas d'essayer de lui dire si le voyage faisait partie du voyage. Et d'y aller en train, plus bateau, plus là-bas au Maroc, c'est bus, train, enfin. Mais du coup, ça prend. En témoignage personnel, est-ce qu'on réduit notre présence sur place avec la famille qu'on voit tous les deux ans? Est-ce qu'on veut favoriser? C'est pour ça, des fois, le choix de l'avion, c'est pour exactement. Favoriser le temps.
C'est le temps, oui.
Le temps présentiel. Mais un jour, peut-être, on fera le voyage en train-bateau. D'ailleurs, Cécile Lucas, chez nous, à Ligette, elle l'a fait pour aller au Maroc, jusque dans le sud. Et bon, ça a été. Ça faisait partie du voyage, de prendre le train, de traverser l'Espagne, de prendre le bateau à Gibraltar. Enfin, c'est.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est oui. toujours une question de temps, excusez-moi, parce qu'en fait, on doit aller contre-courant de cette société qui nous fait aller vite tout le temps. Donc, on n'a plus le temps et on prend l'avion pour arriver vite parce qu'on doit revenir vite aussi, en fait. Donc, voilà, pour profiter sur place. Mais oui, dans l'idée, ça peut être bien de tester. Isabelle.
Oui, c'est sûr. Et puis après, bon, y a pas de voyage parfait, il n'y a rien de parfait. On est en transition, la société étant telle qu'elle est. L'idée, c'est de faire un changement lent, respectueux aussi de tout le monde, avec les contraintes de tout le monde. Pas la peine de se mettre la pression, de s'en vouloir. J'ai pris l'avion, aïe, aïe, aïe. Oui, bon, on sait. Après, bon, sur place, ben voilà, si tu es accueilli, par exemple, dans la famille, tu vas avoir, ben, pas de, tu vas pas créer, consommer de l'hôtel 4 étoiles avec une immense piscine en plein désert. Donc, voilà, ça s'équilibre. Il faut voir ça aussi, plus le lien social, plus, ben, peut-être ce que tu vas amener, parce que tu vas aller acheter au marché, etc. Donc, tu auras un impact positif direct aussi. Puis après, il est toujours possible de compenser en plantant quelques arbres, en participant au jardinodrome et autres. Donc, c'est un équilibre. Il n'y a pas... Voilà.
Tu veux dire, on doit faire des récompenses pour nous-mêmes dans le quotidien, en fait.
Dans la compensation. Exactement. Mais oui, il faut reconnaître. Il faut voir aussi tout ce qu'on fait. Et il n'y a pas... Voilà. Donc, on fait comme on peut. Oui. Et l'essentiel, c'est d'essayer de faire trouver un l'équilibre. Peu plus. Un peu plus. Un petit pas de temps en temps. Ouais. C'est ça, cheminer. C'est un petit pas qui va dans le bon sens. Et par rapport à ce que tu disais, qu'on veut partir et partir loin, où on doit, parce que voilà, il y a la famille, etc. Et on en a envie, hein, d'avoir dû garder du lien familial, c'est très important, bien sûr. Donc, on peut aussi se dire, et si je partais beaucoup moins loin, et regarder, comme Francis Cabrel, regarder un peu ce qu'il y a autour de nous. Donc, en faisant ça, en Occitanie, on se rend compte qu'en fait, on a vraiment beaucoup de chance. La preuve étant, tous les gens qui viennent en Occitanie pour prendre des vacances, on a des sites vraiment très variés. Ça va de la Camargue, qui est vraiment un îlot, une respiration dans une zone qui est très urbanisée. Donc partir en vacances en Camargue, en maison d'hôte, etc., dans ce genre de structure-là, ben, ça permet de conserver la culture locale, les chevaux, etc., et d'éviter que leur terre soit grignotée par des entrepreneurs, des promoteurs, hein, etc. C'est tout simple, c'est pas loin, on peut y aller en train très facilement. Et même en voiture, vu que c'est moins loin, donc bon, ça s'équilibre au final. Il y a les gorges du Tarn, qui sont magnifiques, des villes comme Saint-Cirq-la-Popie, si on a un peu plus de patrimoine culturel. Il y a le Rieu Volvestre, qui est très très beau, les parcs naturels, les Cévennes, etc. Enfin, on a vraiment des sites incroyables. Et donc, si on utilise le levier de l'hébergement, on peut choisir des maisons d'hôtes, on peut choisir des gîtes éco-responsables qui vont inciter à consommer moins d'eau, faire attention à ci, etc., gérer les déchets correctement, donner les bonnes adresses de producteurs locaux, ce genre de choses. Ça existe, il y en a beaucoup, de plus en plus. On peut aller...
Pour l'hébergement, c'est associé aussi à l'activité qui change de ta vie de tous les jours l'année. C'est dans les fermes pédagogiques. Enfin, il y a du camping dans la ferme ou des écolieux aussi qui mettent en place aussi. Ben, ça les soutient financièrement aussi, hein, de mettre en location des zones d'habitation dans des écolieux, et là on peut découvrir aussi d'autres façons de consommer, d'autres façons de vivre ou être ensemble, et ça permet d'avoir un petit voyage apprenant. Je trouve ça intéressant aussi.
Tout à fait, les fermes bio, ça aide en fait les producteurs bio, ben, ils ont besoin de diversifier aussi leur activité, donc le tourisme fait partie de cette stratégie de diversification. Et ça permet d'essayer de promouvoir, de soutenir des gens qui essayent de mettre en place d'autres modèles, tout en bénéficiant de tous les bienfaits de la nature, du contact avec les animaux, et de surtout aussi de la bonne nourriture.
L'astronomie, c'est très très moteur, ça.
les vins, etc. Enfin, bon, y a tellement de bonnes choses dans notre région. Ce qui nous amène tranquillement au Gers. Là, on peut voyager en bus, à vélo, à pied. On a le chemin de Compostelle qui passe. Donc, c'est vraiment très favorable. Et le simple changement de rythme. En fait, le voyage à pied ou à vélo, ça crée déjà un tel changement de rythme qu'on est dépaysé rien que par ce moyen-là. Je ne sais pas si vous saviez, mais en Lomagne, on peut se faire des balades en montgolfière.
Ok, non, je ne savais pas.
Ça.
On le note.
Et montgolfière de Gascogne.
D'accord.
Il y a une super base VTT à Lectour. On peut faire la descente de la Baïse en canoë c'est promu par le club de canoë de Mirande. Mm-hmm. À Massub, il y a vraiment le lancement des sports nature qui est en cours. Ils ont même inventé une application qui permet de signaler les dégradations environnementales ou les conflits d'usage. Donc, c'est-à-dire que si quelque chose qui est prévu pour l'écotourisme est utilisé différemment, on peut le signaler. Donc, c'est participatif. Enfin, il y a une vraie dynamique gersoise qui se met en place.
C'est génial.
Oui, on est au cœur en fait, on est vraiment au cœur de ce mouvement-là, donc ça je trouve ça vraiment super. Et tout ça pour prendre le temps de la rencontre, de la flânerie, de la rêverie. Il y a tout près ce que tu disais, la ferme des Utopies aussi quand même, qui permet d'avoir aussi un aspect découvert, pédagogie. On peut prendre le temps de la curiosité, donc de l'émerveillement, pourquoi pas aller au lac, se poser, pique-niquer. On en voit plein, des gens qui font ça, ils ont l'air parfaitement heureux. Et il y a la zone limite de la Save, enfin c'est toutes petites choses qui sont apportées qu'on va pas forcément prendre le temps de faire. Ça coûte zéro, c'est super bas carbone et l'effet est garanti, même si c'est pour une demi-journée. Voilà, donc moi je vous encourage pour ce mois de juillet, ce mois d'août, de prendre ce temps de reconnexion à soi, tranquillement au pas de sa porte. C'est une vraie décision en fait, c'est un état d'esprit plus qu'une grande organisation.
Tout à fait, ben, ça donne envie en tout cas. Je vous propose d'écouter une musique maintenant avec Jean du Voyage que vous avez choisi justement. Et on part un peu dans la préparation des vacances.
Sorrow through the sky.
gens du voyage homme. On écoute dans le studio du Radio Fil du Loup et on parle avec Pauline et Isabelle dans leur émission Cheminons dans la transition. C'est pour ces mois de juillet 2025. On parle de écotourisme, donc à réécouter justement sur nos podcasts sur www.radiofildelot.fr. Et on arrive à la fin pour vous annoncer un peu les actualités de Côte de Ligette, Pauline.
Oui, alors on a la Gazette pour les mois de juillet, août. Là, nous, on passe en mode vacances après, nous aussi. Donc, alors, ce qui a été défini, on avait envie d'avoir plus de moments conviviaux. Donc, on a une petite fête prévue au Jardinodrome le 30 août. Venez comme vous êtes pour chacun, auberge espagnole, chacun apporte un truc à boire ou à manger. Et voilà, l'idée, c'est de se retrouver, de faire la fête ensemble et de reprendre les choses sérieuses pour la rentrée. Au Jardinodrome, toujours, il y a tous les jeudis matin, si vous avez envie d'apprendre et aussi de participer à l'entretien de ce petit jardin qui est au Vélodrome, hein, c'est juste derrière nous là, avec une petite parcelle mise à disposition par la mairie. Donc le jeudi matin, de 9h30 à 11h, à la fraîche, on peut passer un bon moment à mettre les mains dans la terre et Bernadette nous dit que c'est de la jardigym douce pour réveiller le corps le matin.
Celle-là, c'est pour tous les jeudis ou c'est pour un là, jeudi priori, spécifique?
Tous les jeudis jusqu'au... Voilà. Non, tous les jeudis, elle n'a pas précisé. Et en septembre, il sera proposé une visite de l'étonnant jardin d'Anthony qui nous fera découvrir et déguster des plantes inattendues. Donc à suivre et à veiller sur le site de Ligette. On avait mis un petit article pour la radio dans la Gazette, donc on va pas redire ce qu'on fait à la radio parce que vous l'avez écouté aujourd'hui. Donc on rappelle quand même que les émissions, elles sont diffusées le vendredi à 18h, le samedi à 16h et le dimanche à 10h. Et après c'est en podcast sur le site de la radio Fil de l'eau.fr. Et on a un petit mot de remerciement pour Cynthia qui a lancé l'initiative. Oui. Voilà.
Bien sûr, on va la saluer.
Ouais. Et après, nous, on est mobilisés à Ligette aussi sur le problématique d'une ligne de train Auch-Toulouse qui était en sursis. Bah ouais, ça paraît incroyable comme on écrit dans la Gazette, mais voilà, la ligne était attend des travaux importants et il y avait une dérogation jusqu'en 2026 et a priori l'État, la région, enfin tout le monde se renvoyait la balle pour financer ces travaux pour maintenir la ligne. Donc l'objectif c'était de... Enfin pour eux c'était on peut pas payer, on va fermer la ligne. Donc tout simplement nous on s'est mobilisés avec une autre asso qui s'appelle ADSL 648. Alors je ne sais pas l'origine de ce nom mais ça doit être le nom de la ligne Auch-Toulouse. Ouais c'est ça, spécifique. C'est une asso créée spécifiquement pour défendre la ligne. Donc il y a un site, enfin allez voir sur la Gazette, il y a des infos. Donc il y a une pétition à signer. Nous on continue à se mobiliser, mais on en a fait une importante en juin et la région et l'État ont confirmé leur soutien. Donc peut-être que on se rend compte que la mobilisation sociale et quand t'es pas d'accord, bah de venir dire que t'es pas d'accord, bah ça peut faire bouger les lignes. D'ailleurs il y a plein de choses qui se passent aussi au niveau de la loi du plomb. Enfin, là faut aller voir sur les sites, mais sur une rétro, enfin en tout cas les gros agriculteurs qui font du lobbying pour revenir sur les pesticides. Bon là je dérive, c'est pas dans la Gazette, mais enfin en tout cas les mobilisations sociales servent et n'hésitez pas à venir vous joindre à nous. Et en tout cas, allez vous renseigner sur les sites différents.
Okay.
Ensuite, pour l'été, pour les vacances, pour ce qu'on vient de dire, rester dans le coin, déjà, du 16 au 20 juillet à Montferrand-Savès, vous avez les estivales l'illustration, mais c'est trop chouette, il faut y aller. Donc c'est un éco-festival, donc il y a pas mal d'ateliers en lien donc on a le 16 juillet par exemple journée éco-festival, donc on pourra fabriquer ses cosmétiques, ses produits ménagers, on pourra avoir une machine low-tech, il faudra pédaler pour laver ton linge et on pourra aussi décorer nos chaussettes avec de l'encre végétale. Le 18 juillet, vous avez une fresque des nouveaux récits, là. Donc c'est très intéressant pour prendre conscience et puis pour s'autoriser à rêver, tout à fait, à se dire oui, c'est possible, oui. Oui, on peut. Yes, you can, comme on dit. Et après, on a aussi une journée le 19 juillet, donc deux ateliers autour des encres végétales. Donc, c'est hyper intéressant. Et après, toute la thématique du festival, c'est Pinocchio. Donc, il y a l'Italie qui sera au rendez-vous avec des soirées, des ateliers, mais aussi à manger italien.
Absolument. On l'a annoncé plusieurs fois, justement, dans notre agenda. Même on a interviewé aussi Didier Bardet. Donc, voilà, les estivales au cœur maintenant de Radio Fil de l'eau.
Ouais, c'est... Ensuite, une autre initiative locale qui vient de nous rejoindre sur le territoire, c'est Aux Arbres Citoyens. L'idée, c'est d'aller récolter les arbres fruitiers qui sont, enfin, d'aller récolter les fruits qui restent pourrir sur les arbres, en fait. Oui. Voilà. Donc c'est là, faut aller voir donc auxarbrescitoyens.org. Sur la Gazette, on a plein d'informations. Donc tu peux mettre à disposition tes arbres et c'est gratuit. Et les gens viennent recueillir. Tu prends une part de ta récolte quand même. C'est tes arbres. Oui. Bah si t'es pas là, bah c'est pour. Et après il y a une diffusion, enfin une répartition sur les cueilleurs et aussi un don auprès des associations caritatives parce qu'on a rarement des fruits frais dans les paniers du Resto du Cœur ou du secours.
Oui. Donc, et c'est marrant, c'est ouais. Quelque chose qui se faisait naturellement à l'époque d'aller cuire en fait sur les arbres
ouais.
des autres.
Ouais, et maintenant, des fois, on n'ose pas, on a l'impression de voler oui. la figue qui. Oui. Oh, non, c'est bon, je peux glaner sur l'espace public. Là, c'est une asso qui structure un peu les choses et puis ça permet de rencontrer des gens aussi. Oui. C'est super. Après, on avait envie de noter une belle. C'est la dernière info, une belle initiative chez nos voisins, le département de la Haute-Garonne, qui ont adopté la feuille de route bifurcation écologique. Alors le terme est intéressant parce qu'on ne parle plus de transition, on ne parle plus d'adaptation, mais de changement. Et là, c'est bifurcation, donc c'est un vrai virage. Donc il y a une ligne de conduite c'est 2025 à 2030. Ça a été signé en juin, l'an dernier. Et il y a une feuille de route pour le département. Donc, a priori, toutes leurs actions doivent être... C'est un peu comme le plan, le livret blanc d'une collectivité. Mais en tout cas, c'est des grands engagements. Et derrière, la mission, c'est de passer au crible toutes les actions du département, au crible de la bifurcation écologique. Donc, c'est réduire les impacts de l'environnement et atténuer les effets du réchauffement. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est renforcer la résilience du territoire. Troisième, c'est garantir la justice sociale et climatique. Quatrième, répondre aux enjeux démocratiques d'accessibilité et de mobilisation. Et cinq, agir en collectivité exemplaire. Donc, c'est des grands concepts, mais...
De quoi s'inspirer ?
De quoi s'inspirer, c'est ce qu'on a dit. Si le GER se pouvait aller se former auprès de la Haute-Garonne. Voilà. Donc, ça, c'est les infos. On n'a pas listé toutes les actions qui peuvent se faire cet été, mais on a des journaux comme le département du GERS ou la Nouvelle-Lilloise. Il y a plein d'infos sur ce qui se passe cet été localement. Et nous, on a un mail, ligette@lillejourdain-en-transition.fr pour nous informer de vos actions. N'hésitez pas, on les retranscrira dans la Gazette.
Absolument. Super, on arrive au bout de cette émission Cheminons dans la transition. Pauline, Isabelle, merci. On va souhaiter à tous les auditeurs et auditrices de voyager en douceur, en mobilité douce et profiter quand même des vacances. Reposez-vous bien. Et dernier mot peut-être pour cet été, pour les auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qu'on leur souhaite?
On leur souhaite du repos, du calme, d'ouvrir le matin les volets, prendre la fraîcheur et en même temps voir comme le ciel est bleu et magnifique. Et juste ça fait partir sur une belle journée. Donc belle journée, belles vacances à tout le monde et à bientôt.
À bientôt, bel été à vous.
Mes amis, c'est vraiment le bazar. Sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.